Bonsoir. Nelson Mandela est décédé ce jeudi à l'âge de 95 ans en Afrique du Sud. Cette annonce a été faite par le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma à la télévision publique. Dans son dernier rapport sur l'indice des perceptions de corruption pour l'année 2013, Transparency International classe la RDC à la 154e position sur 177 pays classés. La RDC gagne donc 6 places par rapport au classement 2012. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous aurons autour de cette table Benoît Cambéré, le rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien le bonsoir Guy Matetsongo, bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Capi à travers le monde.
John Ngomboa, il est directeur des informations à la télévision Antenne A et mettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Ngomboa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi à travers le pays et plus loin que ça.
Et Hippolyte Mbouilou, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bas-Congo. Bonsoir Hippolyte Mbouilou.
Bonsoir confrère, également bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Décès de Nelson Mandela et classement des Transparency International pour l'année 2013 sur la corruption. Écoutez ce que la presse dit au sujet de cette actualité dans cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la disparition hier de Nelson Mandela. Le palmarès titre « Le monde entier sous le choc ». Nelson Mandela est mort hier à l'âge de 95 ans. Le confrère de poursuivre que c'est à Jacob Zuma qu'est revenue la triste obligation d'annoncer la nouvelle du décès de Mandela. Et vêtu d'un costume noir, le président sud-africain s'est acquitté de ce pénible devoir avec beaucoup de dignité. Forum des As souligne « Le grand Nelson Mandela tire sa révérence ». Nelson Mandela s'est éteint a déclaré Jacob Zuma avant de rendre un long hommage à l'ancien président sud-africain. Notre cher Madiba aura des funérailles d'État, a-t-il ajouté. Dans un autre registre, le potentiel fait part de l'indice de corruption 2013 de Transparency International qui classe la RDC à la 154e position sur 177 pays. À l'image des précédents sondages, la RDC y occupe une position peu réjouissante mais encourageante, avec une note de 22 sur 100 contre 21 dans l'indice de l'année 2012. Plusieurs autres sujets ont fait l'actualité cette semaine. À Kampala, en Ouganda, face à face, Joseph Kabila et Yoweri Museveni annoncent la référence plus. Le président congolais Joseph Kabila a rencontré lundi 2 décembre son homologue ougandais Yoweri Museveni à Kampala, en Ouganda. Les sources dignes de foi indiquent que l'objet de cette visite qui s'est déroulée à huis clos n'a pas été révélé à la presse. Par rapport au déploiement des drones de la MONUSCO, l'avenir explique que grâce à ce système, les forces de la MONUSCO vont pouvoir étudier les mouvements des troupes ainsi que les déplacements des civils dans Goma. C'est la première fois que les Nations Unies vont déployer des drones de surveillance dans les provinces du Kivu pour contrôler plus efficacement les groupes armés qui sévissent dans cette zone de l'est de la RDC. Joseph Kabila, de retour à Kinshasa, révèle l'Observateur. Après sa brillante tournée dans le Congo profond et précisément dans les provinces orientales Nord-Kivu et Sud-Kivu, le président de la République Joseph Kabila a regagné la capitale Kinshasa mercredi 4 décembre 2013 en début d'après-midi. Terminons par le décès de Tabouley, victime d'un accident cardiovasculaire il y a 2 ans. Pascal Sinamoui Tabouley ou encore Rochereau, à l'époque ministre provincial de la culture, s'était installé en Belgique pour se faire soigner, révèle Le Phare. S'étant quelque peu rétabli, il est retombé malade il y a quelques semaines et est décédé le samedi 30 novembre 2013 à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles des suites d'une crise de diabète selon son fils Marc Tabou.
Merci Alain Hirong, Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. L'actualité, c'est aussi, Alain vient de l'évoquer dans sa revue de presse, les décès depuis le 30 novembre dernier, de ces monuments de la musique congolaise, Pascal Tabou, alias Rochereau Tabouley. Un commentaire.
Tu as bien précisé que c'est le monument, un des monuments de la musique congolaise, effectivement. Cela a bouleversé tout le monde culturel de la République démocratique du Congo. Le seigneur, comme on l'appelait, le seigneur Tabouley Rochereau a tiré sa révérence. C'est vrai, on s'y attendait un peu après l'accident cardiovasculaire qu'il a eu. Tabouley est parti à la suite des autres monuments comme Franco, comme Kabasele Tchamala, pour ne citer que ceux de son époque, n'est-ce pas ? Taboulaye s'en est allé. Taboulaye qui s'est essayé à la politique. Alain l'a dit, ministre provincial de la culture, mais aussi vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, voilà. Sur le quota RCD, n'est-ce pas? Taboulaye, ce monument qui a composé, oh, les gens spéculent, hein, on en est arrivé à plus de 3000 chansons. Heureusement que
c'est l'un des artistes congolais le plus prolixe.
Voilà. Effectivement, et sur le plan de la chanson et sur le plan également de la progéniture. Nous en parlerons, n'est-ce pas? Les Congolais d'en face ont vite fait tôt, avant qu'il ne ait son accident vasculaire, de mettre en coffret. Je crois que c'est le colonel Dabira qui a pu conserver le répertoire de Taboulaye, n'est-ce pas? Un coffret qui a 2000 chansons et on a pu mettre également le DVD qui suit cette... grâce aux Congolais d'en face. Parce que la musique congolaise, n'est-ce pas, n'a pas de frontières. C'est une musique et qui le fleuve n'est qu'un boulevard qui sépare les deux capitales. La musique congolaise, elle est consommée sur les deux rives du fleuve Congo. Grâce au colonel Dabira et au ministre Ngakoso, on a un trésor de la musique congolaise qui est à Brazzaville. On pourra se ressourcer de temps en temps grâce aux Congolais de Brazzaville.
L'autre actualité, c'est la fin de la tournée du chef de l'État dans l'Est de la RDC.
Oui, le chef de l'État vient de boucler une tournée, riche en enseignements, je suppose. J'ai vu des images. C'est vrai, il y en a qui avaient espéré que le chef irait directement à Goma pour d'abord féliciter les militaires et les réconforter au front, après que Martin Kobler lui a un peu damé le pion, parce que Martin Kobler semblait être le chef de l'État bis qui, chaque fois qu'une localité était récupérée, il était derrière avec le gouverneur de la province du Nord Kivu pour encourager les militaires à aller de l'avant. Le fait qu'il ait commencé par Kisangani a été plutôt une bonne chose, parce que pour faire ce qu'il a fait il y a plus de 5 ans, n'est-ce pas, Kisangani béni par route, eh bien ce n'était pas aussi facile.
De Kisangani à Bukavu par route.
De Kisangani à Bukavu par route, mais il a vu l'état piteux des routes, n'est-ce pas? Il faudrait que la révolution de la modernité passe aussi par là. Il ne faudrait pas non plus qu'on attende seulement que le chef de l'État passe par cette route pour qu'on se souvienne, parce que j'ai appris que l'office de route s'est réveillé pour commencer à réhabiliter, alors que les commerçants du Nord Kivu s'étaient déjà fâchés contre le Foner qui prend des taxes et qui ne répare pas ses routes. La route Kisangani-Bunia, même province, est dans un état lamentable.
Merci John Ngomboa. Je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision antenne A émettant depuis Kinshasa. Nous l'avons dit, Taboulaye est l'un des artistes et musiciens africains le plus prolixe.
Oui, le plus prolixe. Le décès du seigneur Ley était plus ou moins prévisible, Benoît l'a évoqué ici, mais moi plutôt quand j'ai appris son décès, je me suis posé des questions sur comment on fait pour avoir des musiciens d'aussi grande renommée. Est-ce que le Congo a organisé, a structuré, cette sorte d'école populaire qu'est le pays, l'école à ciel ouvert, pour que d'autres Taboulaye puissent venir par la suite. Quand je vois ce que le spectacle qu'offrent nos musiciens actuellement, je me dis, mon Dieu, mais c'est terrible. Il faudra qu'on attende longtemps, parce que l'époque des Luambo, c'était une sorte d'époque des lumières dans la musique de la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est l'époque de l'ombre, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et en même temps, je me suis aussi dit que ces musiciens n'ont peut-être pas réellement bénéficié de son art. Et c'est ça aussi l'autre question.
Comme la plupart des musiciens congolais.
Et effectivement, il y a la Sokoda qui vient de naître, qui essaye de faire quelque chose, mais je ne sais pas. Mais vous savez que la musique est une richesse qui vaut une autre. Jusqu'à ce jour, le Congo n'a pas encore compris qu'il y a beaucoup à gagner aussi dans ce domaine-là.
Les gens comme Lutumba, ils se sentent dans l'obligation de se produire. Jusqu'aujourd'hui, Lutumba, en dépit du fait qu'ils soient fatigués.
Lutumba ne devrait pas. Lutumba ne devrait pas. Un Lutumba, c'est quelqu'un qui à cet âge-ci, il est tranquille chez lui, il n'a plus besoin de livrer des concerts. Il gagne de ce qu'il a investi, il a énormément investi. Et donc, nous sommes dans une distraction générale concernant aussi le domaine de la musique. Et moi, ça m'a fait de la peine de voir que le Seigneur Ley est décédé comme ça, comme un citoyen ordinaire. Il aurait pu jouir abondamment de ce qu'il a investi. C'est vrai qu'il a gagné un peu, mais je pense pas que c'était à la hauteur de son investissement.
Merci, Polyte Mbouilou. J'appelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Bas-Congo. Quel est le souvenir que vous gardez de cette icône de la musique congolaise?
Oui, c'est un grand souvenir en termes de chansons produites par sa personne. Lorsqu'on a un musicien qui n'est pas passé par une école de la musique, une école scientifique proprement dite, mais qui arrive à composer plus de 2000 chansons, ça doit nous faire beaucoup réfléchir pour dire que nous avons des vedettes naturelles pratiquement. Il faudrait rappeler également que Tabouley a été parmi les premiers musiciens africains à se produire dans de grandes salles au niveau européen. Donc c'est une leçon que nous devons retenir. Et il y a d'autres informations en dehors de celles que vous avez relevées que je voulais ajouter en ce qui concerne la province du Bas-Congo. C'est la mort du député honoraire et président fédéral du mouvement de libération du Congo, l'Agence Spidiou, dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier que vous connaissez, dont le corps est censé arriver cet après-midi dans la ville de Matadi. Toute la population pratiquement du Bas-Congo en général et de Matadi en particulier tient à voir aboutir l'enquête de la justice sur ce meurtre odieux, l'arrestation et la sanction des assassins et leurs commanditaires éventuels.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Nelson Mandela est décédé ce jeudi à l'âge de 95 ans en Afrique du Sud. Cette annonce a été faite par le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma à la télévision publique. Il aimait qu'on appelle le Madiba et le monde le reconnaît depuis des années maintenant, les statuts des sages et d'artisans de la cohabitation des peuples. On retiendra de lui pas seulement le titre de premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid, mais également une identité et un combat. Un mot sur sa vie avec Dona Madiba.
Tout le monde l'appelait Nelson Mandela, mais son nom authentique est plutôt Rolihlahla Mandela. Rolihlahla comme prénom et Mandela comme nom. C'est une institutrice d'école primaire qui lui a donné le prénom de Nelson sans raison particulière, comme il était de coutume à cette époque pour les enfants sud-africains d'avoir tous des prénoms britanniques dès qu'ils arrivent à l'école. Appartenant à la tribu Xhosa et fils d'un chef de village déchu, Gadla Henri Mpakaniswa, Nelson Mandela est né en 1918 dans la province du Cap Oriental en Afrique du Sud même. Il est adopté à la mort de son père par le régent Jigintaba Dalindebo qui l'envoie à l'école. Mandela accède à l'université, fait des études de droit, décroche son diplôme à l'université de Witwatersrand et devient alors avocat. Et pour conclure sur le plan conjugal, il faut retenir que Nelson Mandela aura été marié trois fois dans sa vie. D'abord avec Evelyn Toko de 1944 à 1954, mariage fragilisé par des absences répétées de Nelson pour des causes politiques. Ensuite avec Winnie Madikizela de 1958 à 1996 et enfin avec Grace Siam Machel, de 1998 à nos jours.
Nelson Mandela, c'est aussi les valeurs d'un homme et son combat pour la liberté et l'égalité. Ça lui a valu parfois les recours aux armes et des longues années d'emprisonnement. Le récit de ses cheminements politiques dans ses condensés proposé encore une fois le plus par Dona Madiba.
C'est son renvoi de Fort Air, l'université qu'il fréquente peu avant 20 ans, qui constitue un des signaux forts du combattant que Nelson Mandela allait devenir plus tard. À 26 ans, il intègre l'ANC et à 43 ans, non satisfait des résultats donnés par des méthodes non violentes de la lutte contre les discriminations menées par l'ANC en Afrique du Sud, Nelson Mandela fonde et dirige Unkoto Isizwe, branche armée de l'ANC. Il organise alors des actions de désobéissance. Il planifie des actions de sabotage lorsque lui et ses camarades sont arrêtés en 1963 et jugés. Nelson Mandela est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Il passe 27 ans à la prison de haute sécurité de Robben Island et sera enfin libéré en février 90 pour devenir 4 ans plus tard le premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson n'a fait qu'un mandat de 5 ans et depuis 1999 qu'il a quitté le pouvoir, il se consacre à plusieurs causes humanitaires dont la malaria et le sida. Même si de nombreux Sud-Africains regrettent aujourd'hui encore que Mandela n'ait fait qu'un seul mandat de président, au niveau international par contre, il bénéficie d'une grande notoriété notoriété, prix Nobel de la paix en 1993, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le qualifie de citoyen du monde exemplaire.
Benoît Gamere, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. D'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la mort de Nelson Mandela?
Bon, je dirais que c'était prévisible aussi, parce que c'est depuis le mois de juin notamment que il est presque mort, n'est-ce pas? Mais j'étais bouleversé, d'autant plus que c'est vraiment une icône de la politique africaine, même de la politique mondiale, parce que je me rappelle les deux séjours que j'ai fait en Afrique du Sud, n'est-ce pas? La première fois, quand j'étais à Johannesburg, parmi les sites, on m'a proposé beaucoup de choses à voir, n'est-ce pas? J'ai tenu, c'est vrai, le monument des enfants du 16 juin, je l'ai vu, je tenais à le voir, à cause de massacres que les enfants... Mais également, la résidence de Nelson Mandela, qui est devenue un centre culturel à Soweto.
On va évoquer tout ça tout à l'heure. John Gomboa, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez appris la mort de Nelson Mandela?
Un bouleversement. J'ai vécu ça comme le décès d'un proche, malgré que c'était très prévisible. Ce matin, j'étais mal réveillé plutôt à cause de ce décès. Et j'ai scruté l'Afrique. Je me suis rendu compte que après Mandela, c'est tout un désert, parce que l'Afrique est encore en sang, est encore au carrefour, et il n'y a pas beaucoup de Mandela, il n'y a pas de Mandela du tout. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut traiter l'Afrique comme l'avait fait Mandela. Et moi, je me suis posé la question, qu'allons-nous devenir sans Mandela? Parce qu'il était un peu, si tu veux, notre référence, celui qui incarnait un peu les valeurs des Africains, et surtout des Noirs Africains.
Merci, Hippolyte Mbouilou, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTC Bakongo. Mandela est décédé, votre réaction?
C'est une mort qui fait très mal à tout le monde. Ça m'a fait très mal lorsque je l'ai appris. Mais malheureusement, c'est quelque chose que tout le monde attendait également. On s'y attendait. Et lorsque on nous l'a appris, ça nous a fait mal. Et comme John Ngongo a dit tout à l'heure, c'est comme si on perdait un être très proche. Et pourtant, moi, personnellement, je ne l'ai pas connu physiquement comme ça, mais à travers les médias au niveau international, nous avons ce qu'il a eu à rendre comme service à l'humanité. C'est ce que nous devons plus retenir de positif de sa personne.
Merci.
Lui qui a lutté, pratiquement raté toute sa jeunesse pour libérer l'homme noir contre l'apartheid.
Merci Benoît Kamere. Nous allons parler d'abord du combat de Nelson Mandela. Dans son combat pour la liberté, Mandela a eu à changer des approches initialement sous influence de la lutte non violente prônée par le Mahatma Gandhi. Il avait combattu pacifiquement pour la liberté fondamentale des Sud-Africains. Mais à l'âge de 40 ans, il prend les armes. Et comment vous analysez ces revirements?
Ben, c'était tout simplement dû au fait que l'apartheid était devenu inacceptable. Il fut un moment où les gens ne faisaient pas attention, où l'Afrique ne savait pas trop ce qui se passait là-bas, où le monde faisait la sourde oreille, mais trop, c'est trop. Il a été obligé, lui qui était le plus instruit de tous les membres de l'ANC de l'époque, de prendre les armes. Parce que on l'a dit à longueur de journée aujourd'hui, on l'a dit déjà hier soir, il a eu à subir une formation militaire en Algérie, n'est-ce pas, avant de revenir diriger l'ANC et la branche armée avec ses collègues pour que finalement on en arrive à ce qui est arrivé en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'abolition de l'apartheid.
John Gomboa, pour justifier la répression contre l'ANC, le régime sud-africain, a qualifié Mandela et tout ce qui était avec lui des communistes. Or, nous sommes dans un contexte à l'époque de la guerre froide et l'on constate que les camps occidental semble être tolérant vis-à-vis du régime sud-africain. Peut-on établir une corrélation entre la guerre froide et la lutte qu'a menée l'ANC de Nelson Mandela?
Absolument, absolument. Et vous êtes rendu compte que c'est à la faveur de la perestroïka que la libération de Mandela a été aussi accélérée. Et Avant cela, c'était la guerre froide totale. L'Occident, les pouvoirs disons occidentaux, pouvaient soutenir des régimes les plus abjects à partir du moment que c'était le relais ou les garants de leurs intérêts face à ce qui était censé comme être la progression du communisme. Même le pouvoir du maréchal Mobutu a été aussi consolidé à cause de cela, parce qu'on disait que juste à côté de chez nous, en Angola, c'était les communistes. Et voilà pourquoi le maréchal a aussi surfé sur cette vague pendant très longtemps. C'était pareil aussi en Afrique du Sud, malheureusement, où toute une communauté a été brimée pendant plusieurs années à cause des intérêts des Occidentaux, excusez-moi de le dire, et qui le faisaient passer pour du communiste, alors que Mandela et les siens militaient tout simplement pour leur droit, leur expression. Une voix, une personne, ça tient à l'être humain, qu'il soit blanc, noir, jaune ou n'importe quelle autre race, je veux dire.
Hippolyte Mbuilu, John Ngombwa l'a évoqué, il y a une corrélation entre la lutte que Mandela a menée et la guerre froide. Mais comment vous pouvez expliquer cette corrélation?
Oui, cette corrélation s'explique à partir du moment où l'Occident qui soutenait le pouvoir sud-africain, qui mettait pratiquement en difficulté le noir majoritaire, c'est l'Occident n'avait plus trop d'intérêt de pouvoir continuer à soutenir le pouvoir absurde qu'il y avait en Afrique, également d'autres pays. Il fallait coûte donner des leçons de la démocratie, donner des leçons par rapport au respect des droits de l'homme. C'est comme ça qu'il fallait commencer par libérer tous ces leaders de l'ANC et mettre fin à ce système odieux d'apartheid.
Et donc, Benon Kamere, tout cela peut s'expliquer par le fait que toute l'élite des libérations à l'époque s'apparentait, n'est-ce pas, au mouvement communiste?
Oui, souvent on le prêtait comme ça, à tort d'ailleurs, tout simplement pour mieux les mater. Et dans le contexte de la guerre froide entre les communistes et l'Occident, n'est-ce pas, c'était très facile de taxer ceux qui se révoltaient, tous ceux qui voulaient se libérer comme communistes. Comme ça, on les mate sans problème. On se rappellera que Lumumba, dans notre pays, a été traité de communiste. Et nous savons comment il a fini. Il suffisait qu'on vous taxe de communiste et c'était parti. Et d'ailleurs, on racontait beaucoup d'histoires sur les communistes. Et partout en Afrique, celui qui voulait lever la tête ou élever la voix était traité de communiste et traité comme tel, c'est-à-dire anéanti, tout simplement. Et ce contexte a fait que le régime odieux d'apartheid d'Afrique du Sud, n'est-ce pas, tout le monde se rappelle de Peter Botha, tout le monde se rappelle de tous ceux qui se sont succédés.
De Klerk,
tous ceux qui se sont
succédés. Qui a libéré Mandela.
Absolument. Lui, il a compris, et la perestroïka y est pour beaucoup, n'est-ce pas, a fait que, je l'ai même suivi ce matin, il a regretté la mort de ce grand homme que Mandela restera, parce que on n'a pas vu beaucoup en Afrique, n'est-ce pas, qui, après un mandat, on voit comment les chefs d'État africains s'accrochent au pouvoir, tripatouillent leur constitution pour rester au pouvoir. Mandela a fait un mandat honorable, il a tiré sa révérence. La preuve, Mandela aujourd'hui est immortel à cause de ça. Mais tous ceux qui s'accrochent au pouvoir, généralement, nous savons comment ils terminent. Généralement, s'ils n'ont pas une balle dans la tête, ils terminent en exil. Et ce n'est pas des choses à conseiller. Si cela peut faire réfléchir les présidents africains qui s'accrochent, qui estiment qu'un mandat, deux mandats, il y en a qui en sont arrivés à plusieurs mandats qu'ils renouvellent, il faudrait que ça s'arrête, il faudrait qu'on soit un peu plus civilisé. Voilà un exemple d'un Africain qui devrait faire réfléchir les dirigeants africain actuel.
Merci, John Ngombwa. Une fois libéré, Nelson Mandela pardonne à ses bourreaux et souhaite une République sud-africaine multiraciale. Le fait-il par conviction ou c'est le contexte de l'époque, n'est-ce pas, qui va les pousser à prôner la cohabitation pacifique entre toutes les races?
Non, Mandela le fait par conviction, Guy Maté. Déjà, quand il était en prison, il y a eu une vague de jeunes universitaires qui étaient arrêtés après lui, qui sont venus très fougueux, qui voulaient tout casser. Mais Mandela leur a fait voir que le temps était déjà passé, ce temps-là où des tirer, des tuer et tout ça. Donc Mandela était profondément un homme pacifique, un homme de paix. Et je pourrais même aller plus loin pour dire Mandela n'était plus dans les calculs politiciens. Il ne s'appartenait plus. Tout ce qu'il faisait, c'était pas pour son intérêt, à la différence de beaucoup d'hommes politiques. Donc Mandela a vu plus loin. Il a compris que l'homme blanc sud-africain et l'homme noir sud-africain ont une communauté ensemble, c'est la terre sud-africaine. Et tu sais que Mandela, dans la prison, il avait déjà appris à parler l'afrikaner, la langue maudite pour les noirs africains. Et donc Mandela avait déjà dépassé toutes ces contingences, c'était un homme pur et un homme vrai. Et donc, moi, je suis convaincu que c'était sans calcul. Il l'a accepté parce qu'il en était convaincu.
Hippolyte Mwilu, quel est l'héritage que Mandela lègue aujourd'hui au monde entier?
Oui, c'est un grand héritage qu'il lègue aujourd'hui au monde entier. C'est cet esprit qui consiste à réconcilier tout le monde, travailler même avec ceux qui nous ont fait du mal hier, et arriver à cheminer ensemble. Tenez-vous par exemple, lorsque vous êtes libéré en 91, vous devenez président de ce pays, vous devez vivre, accepter de vivre avec vos bourreaux qui vous ont emprisonné injustement, torturé, humilié pendant 26 ans. C'est pas peu de choses. Donc c'est un peu comme les autres confrères l'ont décrit tout à l'heure, c'est vraiment par conviction. Il a pu agir. C'est la grande leçon qu'on doit retenir sur le plan politique. Si on peut avoir des dirigeants en Afrique ou ailleurs capables d'agir de cette manière, je pense que on n'aurait pas trop de guerres, on n'aurait pas trop d'injustices que nous vivons dans beaucoup de pays actuellement.
Oui, Benoît Kamere, il lègue au monde, n'est-ce pas, comme héritage, la tolérance, l'amour du prochain. Mais déjà, ses héritiers biologiques semblent ne pas s'accorder sur un certain nombre de choses. Ouais, et cette attitude n'entre-t-elle pas en contradiction avec les valeurs que lui-même, Nelson Mandela, défendait?
Oui, c'est vraiment dommage que déjà sa famille biologique, on l'a vu, et j'ai eu à le constater, j'ai vu un des petits-fils de Mandela, là, n'est-ce pas, à Cape Town, parce que, j'ouvre une parenthèse, quand je suis allé visiter la prison de Robben Island, j'ai vu le lit sur lequel Mandela dormait, couchait.
Là où il a passé 27 ans.
Il a passé 27 ans. Mandela, c'était un grand homme, hein, un grand homme au propre comme au figuré. Le lit était plus court que lui-même. Alors j'imagine le calvaire pendant 27 ans dans ce truc. Et je me dis, à l'image de la famille, j'ai peur pour l'Afrique du Sud. J'ai peur pour les générations futures. C'est vrai, après Nelson Mandela, il y a eu Thabo Mbeki et maintenant Zuma. Et après Nelson Mandela, j'ai vu une génération des jeunes Sud-Africains riches qui roulent carrosse. Ils ont des gros cylindrés. Mais également, et ça j'ai vu ça à Cape Town, n'est-ce pas, des skinners, des extrémistes blancs qui risquent de se réveiller après Nelson Mandela. Et ça c'est une crainte pour l'Afrique du Sud de demain. Prions Dieu vraiment que l'héritage que Mandela a légué à la postérité soit suivi. D'abord, j'espère que les funérailles, après le deuil de Nelson Mandela, sa famille ne va pas se déchirer, parce qu'on a vu déjà les prémices, n'est-ce pas, quand il était malade, sur le lieu de son internement, sur les lieux de son enterrement, sur beaucoup de litiges, beaucoup de luttes intestines au sein de sa famille, mais également au sein de son parti, l'ANC. L'ANC n'est plus ce bloc uni où tout le monde, c'est vrai, il y a des blancs, il y a des métis, il y a des indiens dans ce parti, mais la majorité c'est des noirs. Mais déjà parmi les noirs, on a vu le leader de Kossatou, le leader des jeunes qui s'oppose déjà à Zuma. Je crains que l'après Mandela fasse éclater et sa famille et son pays. Et finalement, l'équilibre qu'il y a en Afrique du Sud, ce serait vraiment dommage.
Merci.
Ce ne serait pas rendre hommage à ce grand homme au propre comment figuré.
Merci. John Gomboa, comment vous vous entrevoyez l'avenir de l'Afrique du Sud après Nelson Mandela? Déjà, Benoît Cambéré exprime certaines inquiétudes.
Oui, il y a peut-être des inquiétudes, effectivement, mais je tenais quand même à dire que la famille de Mandela n'engage plus Mandela. Mandela ne s'appartient même pas, je crois que...
Un
patrimoine mondial. Il y a une même Mandela Day, une journée de Mandela. Et donc, quelles que soient les phrases au niveau interne, tout ça, ça ne devrait pas avoir un impact sur l'image pure de cette icône. Mais cela dit, effectivement, il y a des soucis à se faire entre Thabo Mbeki, Jacob Zuma et Julius Malema, les leaders des jeunes. Je crois qu'il y a une sorte de dégénérescence, je peux dire. Il y a une sorte de dégénérescence de l'esprit Mandela dans les chefs des leaders. Mais qui, Thabo, était un peu plus proche, si tu remarques, du point de vue de la carrure, du point de vue du comportement, du point de vue intellectuel, il était un peu plus proche de Mandela. Et puis, il y a Zuma, et Malema, il est carrément une canaille, excusez-moi les termes.
Mais fort quand même.
Oui. Malema, il se comporte comme un bandit.
Et pourquoi comme un bandit?
Mais Julius Malema, il est anti-système. Il est même un rebelle, je peux dire. Il est même un rebelle. Alors, il y a une sorte de dégénérescence et à laquelle on doit faire très attention pour ne pas perdre l'héritage de Mandela. Ça, c'est déjà en interne, mais aussi en extérieur. Maintenant, après, il y a la lutte blanc et black qui est réelle en Afrique du Sud, même si quelque chose me rassure, c'est-à-dire que le système a peut-être trouvé aussi un équilibre en soi. Vous remarquerez que l'économie est toujours aux mains des blancs, malgré les black empowerment. L'économie est toujours aux mains des blancs, et la politique peut-être c'est fait par les noirs, mais c'est aussi cet équilibre-là vers laquelle on peut aller en attendant mieux, quoi.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, dans son dernier rapport sur l'indice de perception des corruptions pour l'année 2013, Transparency International classe la RDC à la 154e position sur 177 pays classés. La RDC gagne donc 6 places par rapport au classement 2012. Transparency International a publié mardi dernier l'indice de perception de corruption pour l'année qui s'achève. La RDC se situe à la 154e position sur 177 pays classés. Les pays gagnent donc 6 places par rapport à l'indice 2012. Selon le rapport de Transparency, les pays perçus comme les moins corrompus de la planète sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande qui occupent la tête du classement. À l'autre extrême, l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie sont considérés comme les nations les plus corrompues. Les résumés d'Axel Gontcho rendu par Onésime Mukandila.
Les pays africains les mieux placés sont le Botswana, 30e, et le Cap-Vert, 41e. Les pays d'Afrique centrale sont plutôt mal classés. Le Cameroun ex aequo avec la République centrafricaine occupe la 144e place. La RDC ex aequo avec le Congo occupe la 154e place. Le Tchad occupe la 163e place et le Soudan l'avant-dernière place. Basé sur l'opinion des experts, l'indice mesure la perception de la corruption dans le secteur public dans différents pays à travers le monde. Il attribue le score nul aux pays perçu comme hautement corrompu et 100 à celui qui apparaît comme étant le plus transparent. Le rapport note qu'aucun pays classé n'a atteint un score parfait et s'inquiète de la propagation de la corruption. En effet, plus de 2/3 des pays classés ont obtenu moins de 50 points, ce qui les classe dans la fourchette des pays où la corruption est endémique. Reconnaître le problème de la corruption n'est qu'une étape, estime Transparency International, qui recommande aux dirigeants du monde de transformer les plaidoyers contre la corruption en actions concrètes.
Hippolyte Mbouilou, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bakongo. La RDC est classée à la 154e position sur 177 pays classés. Et quelle analyse vous faites de ces rapports de Transparency International?
Au vu de ces rapports de Transparency International, c'est bon pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui vient de gagner 6 places, aujourd'hui classée 154e, puisqu'on a un point de plus, 22 sur 100, contre 21. Pour l'année dernière, c'est peut-être un bilan qui commence à être positivé, mais nous sommes encore loin de ce que nous aurions souhaité. C'est vrai que peut-être avec la bancarisation, cela a permis de réduire le taux de détournement de données publiques, mais il y a encore du chemin à faire parce que vous avez la corruption dans tous les secteurs, pratiquement dans notre pays, l'administration publique, le service percepteur de recettes de trésors publics, la corruption a tendance à s'étendre même au niveau de l'enseignement. L'enseignement primaire, s'il vous plaît, ça doit faire très mal. C'est classé 154e, ça ne doit en aucun cas nous faire plaisir, d'autant plus que pratiquement nous continuons à faire partie des équipes relégables dans ces championnats.
Benoît Caméré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Transparency International dit que c'est basé sur la gouvernance ainsi que sur la vie politique comme critère d'appréciation.
Effectivement. Tout à l'heure, le confrère de Matadi a dit que nous avons gagné. Bon, c'est plutôt un bon signe, certes.
6 places dans un espace d'une année.
Oui, 6 places dans l'espace d'une année, on pouvait gagner davantage. Surtout que nous nous appelons la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et au vu, parce que c'est vrai, on ne peut pas se comparer au Soudan ou à d'autres petits pays, mais que le Botswana, qui est un pays africain, n'est-ce pas? Le pays dont la capitale est Gaborone, qui nous rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas? Celui qui a conduit les pourparlers de Sun City, c'est le président du Botswana, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on devait s'en inspirer. Et il est proche de l'Afrique du Sud, cela veut dire quelque chose. Mais je voudrais ajouter, en ce qui concerne la gouvernance, que c'est peut-être aussi l'impunité. Tout à l'heure, notre confrère a parlé de la bancarisation, qui n'est qu'une infime partie, n'est-ce pas? On bancarise quoi? Les minables salaires des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il en reste? D'ailleurs, on peut même se poser la question sur les retombées de cette bancarisation. Où va tout l'argent qu'on récupère à partir de cette bancarisation, à partir des minimes salaires qu'on donne aux fonctionnaires?
Il est affecté dans la construction des nouvelles écoles, le gouvernement congolais.
Selon le gouvernement congolais. Bon, bah, écoutez, j'espère que les petits montants qu'on a va faire en sorte qu'on ait ne fût-ce qu'une demi-école par province. Ce sera déjà ça. Mais la grande corruption, ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est dû au fait que l'impunité bat son plein. On voit des immeubles poussés à Kinshasa. On se demande d'où vient cet argent. On commence à dire que même Kinshasa est la grande plaque tournante de blanchiment d'argent qui sale. Vient, l'argent sale qui vient de partout au monde. Est-ce que les ressources des régies financières, on a parlé en dehors de Transparency International, il y a l'ITIE qui avait parlé des disparitions. On n'a jamais arrêté quelqu'un et puis quand on arrête quelqu'un, on lui demande même pas de rembourser. Quoi? On arrête les Koulounas, des voleurs à la tire? Ce n'est pas de ça dont on a besoin. C'est la bonne gouvernance, que quelqu'un qui détourne l'argent. Ici, on n'a jamais arrêté. Pourtant, on sait que les détournements sont légion et à grande échelle. Mais qu'est-ce qui est fait? Tout ça fait que, bon, c'est vrai, on peut se contenter d'avoir gagné 6 places. Ce serait bien qu'on en gagne 60. Ce serait bien qu'on soit à la place du Botswana, qui est quand même un pays africain. Ce serait bien qu'on soit à la place de Cap-Vert, mais être content parce qu'on est devant le Soudan, on devrait avoir honte. La RDC, un grand pays très riche sur tous les plans, on ne devrait pas se contenter de 6 petites places qu'on gagne. Non, on devrait faire mieux. Et ça dépend du leadership du pays, ça dépend de l'effort qu'on peut faire pour punir tous ceux qui sont en train de corrompre et tous ceux qui sont en train de dilapider l'argent public.
Merci John Gomboa. Je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A qui émet depuis Kinshasa. La RDC a quand même fourni des efforts sur le plan normatif. Nous avons les codes miniers, nous avons les codes forestiers, nous avons la création de l'observatoire de l'éthique professionnelle, la loi anti-corruption et la loi contre le blanchiment des capitaux. Là, ce sont des facteurs, n'est-ce pas, qui devraient être pris en compte dans l'établissement de ces classements par Transparency International. Apparemment, cette ONG n'a pas pris en compte ces efforts qui sont fournis, même si ils ne sont pas suffisants, mais c'est des efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais.
Oui, et ça c'est, je peux dire, des déclarations d'intention. On veut, mais après il faut maintenant rentrer dans les concrets des choses. Moi je dis que le Congo, il y a aussi un problème des redistributions des richesses. Hein. L'État comme notre couverture à nous tous, gagne un certain nombre de choses. Mais maintenant, qui en bénéficie? Il y a très peu qui bénéficient de cette couverture de l'État et la grande majorité est dans la précarité, voyez-vous. Et une telle ambiance, un tel climat favorise, entre autres, la corruption. Donc moi je dis que, autant Benoît a évoqué peut-être l'aspect malversation, mais moi je dis qu'il y a aussi un sérieux problème de redistribution des richesses. Le Congo est potentiellement riche, non seulement il est riche, mais qui bénéficie de la richesse du Congo? C'est très peu de gens par rapport à la multitude. Et aussitôt que des mécanismes pourront être mis en place pour redistribuer de manière équitable la richesse qui nous appartient à tous, on verra que tout de suite, les taux de corruption vont aussi diminuer. Mais pour l'instant, il y a peu de gens qui bénéficient de beaucoup et beaucoup qui n'ont rien à côté.
Oui, Hippolyte Mbouilou, vous venez de suivre John Mbomboa qui a évoqué la répartition des richesses. N'est-ce pas ça le problème fondamental et qui fait que cette lutte contre la corruption n'aboutit pas ici au Congo?
C'est vraiment parmi les problèmes majeurs, non seulement la répartition de richesses qui n'est pas faite dans l'équité, mais il y a aussi d'autres aspects, parce qu'il n'y a pas de contrôle effectif sur la gestion de deniers publics. Hein. Lorsqu'il y a des entrées qui doivent se faire, on ne vérifie pas l'entrée qui est constatée dans une banque commerciale. Est-ce que ça reflète la réalité? Ça pose problème, ça donne un certain droit, entre guillemets, aux douaniers ou encore à l'agent qui se trouve à la direction générale des impôts. Pouvoir agir comme il veut, ça pose problème déjà en amont et également en aval. Les autorités publiques qui se trouvent à un niveau très haut, elles aussi n'arrivant pas à bien contrôler, ont aussi tendance à détourner les données publiques. Je pense, comme les autres confrères l'ont dit, c'est une question de volonté politique, de leadership, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, pour le pays, on a parlé à un certain moment de la taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, cette taxe, qu'est-ce qu'elle représente par rapport aux recettes publiques? Est-ce qu'on vérifie réellement les reversements de fonds de cette taxe sur la valeur ajoutée perçue par le commerçant pour qu'elle atteigne réellement le trésor public? Est-ce qu'on la vérifie? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enrichir certains hommes d'affaires en complicité avec les agents de ces services percepteurs? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Vous avez cité beaucoup de lois normatives, mais est-ce qu'elles sont vraiment appliquées? Est-ce que le code minier est réellement appliqué en République démocratique du Congo? Tous ces minerais que nous avons, qu'est-ce qu'ils apportent réellement sur le plan budgétaire? Pourquoi n'arrivent-ils pas à apporter ce que nous attendons? Essayons de faire une étude comparative entre l'Angola et la République démocratique du Congo, deux pays producteurs de pétrole par exemple. L'Angola est en train de se développer rien qu'avec son pétrole, mais allez à Moanda, vous verrez qu'il n'y a rien.
Merci Benoît Kambéré, ça sera votre conclusion. Que faut-il faire pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Vous avez parlé de la lutte contre l'impunité.
Tout à fait, et la bonne gouvernance, tout simplement, une volonté politique à partir du haut, que l'on assainisse les finances publiques, que l'on punisse, parce que c'est flagrant, l'impunité dans ce pays. Il y a des gens qui deviennent arrogants, pourtant ils sont en train de dilapider les biens de l'État. Il faut une bonne gouvernance à partir de la tête du pays.
John Gomba, une répartition équitable des richesses pourrait aussi contribuer à la lutte contre la corruption en RDC?
Absolument. Il faudrait que tous les Congolais puissent bénéficier de manière équitable des richesses de leur pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bob Land était à la technique, Alain Irung à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.